On est donc en direct sur Radio G au 101.5 avec l'émission Assiette pour 3, l'émission conçue et réalisée par les AMAP du Maine-et-Loire. Rappel, c'est une émission qui a lieu tous les 15 jours de 13h à 13h30. Et il y a donc deux semaines de cela, on vous a retracé le fonctionnement et l'histoire des AMAP. Aujourd'hui, ce sera une émission que j'appellerai plus gourmande, car elle aborde un produit que l'on trouve aussi en AMAP, le miel. Et oui, pour rappel, une AMAP, ce n'est pas seulement des paniers de légumes comme certains le pensent encore, mais une multitude de produits cueillis, élevés ou transformés. Alors pour cette émission, je suis accompagné d'un apiculteur, Maxime, et d'un consommateur, Alain, qui vont tout simplement se présenter très brièvement aux auditeurs. Maxime.
Bonjour, donc Maxime Dufranc, apiculteur éleveur, adhérent de l'AMAP de Bushman. Donc je suis installé avec Lisiane, ma compagne. On mène des ruches, à peu près 250 ruches sur les bords de Loire, de Bushman à Saint-Georges-sur-Loire.
Bonjour Alain, moi je suis consommateur et je suis adhérent à l'AMAP de Bushman.
Ok. Et alors, une première question pour Maxime. Avant d'aborder le détail peut-être de ton métier, de l'apiculture, quelles ont été tes motivations pour devenir apiculteur ?
Alors, l'apiculture, déjà, c'est arrivé un petit peu par hasard. Je suis un amoureux de la nature, de tout ce qui peut se passer autour de la nature. Et il y a 8 ans, j'avais un grand jardin avec un potager, des agneaux. Donc j'avais une petite fibre d'autosuffisance. Et avec un ami, comme par un hasard, en fait, on s'est intéressé aux ruches et j'en ai acheté deux. Et la passion est vite devenue grandissante. C'est tellement un monde fascinant. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On en apprend tous les jours. Et on a des produits qui sont très nobles. C'est-à-dire qu'il y a le miel, mais tout est utilisable dans la ruche. Le pollen, la propolis, la gelée royale. Et c'est vraiment un produit très intéressant. Enfin, des produits très intéressants.
D'accord, il n'y a pas eu d'études particulières, de rencontres avec un apiculteur ou autre qui aurait... Ouais. Est-ce que c'est le hasard ? Non, c'est...
Le départ, ouais, c'est avec un ami, donc une démarche, lui en a acheté 3, moi j'en avais acheté 2. Et donc au début, bah, j'y connaissais pas grand-chose, quoi. J'avais pris ça au hasard, ce qui n'est pas forcément une bonne chose à la base. Mais par contre, j'ai eu des gens qui sont venus m'aider, parce que j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres en apiculture. Donc Alain, là, un apiculteur amateur à Angers, qui m'a donné les coups de main et qui m'a fait récolter mon premier miel, etc. Et après, la démarche pour devenir professionnel, donc je me suis posé des questions, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un métier ? Progressivement, j'ai eu un petit peu plus de ruches et j'ai fait ce qu'on appelle le CFPPA de Laval. Donc, c'est une formation pour adultes spécialisés en apiculture. Et donc là, ça m'a permis de rencontrer pas mal de jeunes apiculteurs qui sont devenus des amis. On a beaucoup pu échanger. Et par contre, je me suis rendu compte que ça ne suffirait pas pour devenir apiculteur, que c'est un métier où il faut apprendre beaucoup de choses. Donc j'ai travaillé dans une exploitation spécialisée en élevage de rennes. Et c'est là que j'ai rencontré notamment Lisiane, ma compagne.
D'accord. Alors, toujours un peu sur le contenu de ce métier, quelles pourraient être les difficultés rencontrées par un apiculteur ? Quelles ont été les tiennes peut-être ? Si tu as eu des difficultés à t'installer, pourquoi avoir choisi l'Anjou ? Et puis, difficultés qui peuvent être de lieu d'installation physiquement, matériel, et puis de financement peut-être aussi d'ailleurs pour un jeune qui s'installe. Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées là ?
Oui. D'abord par rapport à l'Anjou, tout simplement parce que je suis natif de Bushman, donc c'est un endroit qui me plaît bien, les bords de Loire, les bords de Maine, c'est un environnement qui est assez diversifié. Et ensuite, par rapport aux difficultés, donc c'est un long travail en fait pour venir de amateur à professionnel. Nous, on a créé notre cheptel avec Lisiane, donc progressivement, on s'est installé. Ce qui est dur au début, c'est financier, de trouver des finances parce qu'on a besoin de matériel. Plus on a de ruches, plus on a de colonies, plus on a besoin de matériel. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est l'accès au foncier, c'est-à-dire qu'il est difficile de trouver un lieu, une ferme pour pouvoir stocker notre matériel, pour faire une miellerie. À titre d'exemple, en ce moment, on loue un hangar de stockage à Saint-Martin-du-Fouilloux. On extrait notre miel à Brissac chez un apiculteur qui est à la retraite. Donc ça, c'est une autre bonne rencontre, Jean-Pierre, qui nous a beaucoup aidés. Voilà pour l'accès. C'est ça qui est surtout compliqué. Après, la passion fait le reste et va faire qu'on...
D'accord, parce que la difficulté que j'imaginais, moi, on ne fait pas du miel du jour au lendemain. Il y a toute une phase d'adaptation avant d'arriver à sortir son premier pot de miel. Il y a d'ailleurs toute une phase qui peut être assez longue, peut-être, sur laquelle on est peut-être dans une période de doute et dans laquelle on gagne rien, quoi. Non ?
En fait, moi, les premières ruches que j'ai eues, elles m'ont tout de suite donné du miel, donc ça donne une grande satisfaction aussi.
D'accord.
Et ça encourage à continuer et à en avoir toujours plus. Donc ce côté-là, au contraire, c'est très motivant. Et... dans le contexte actuel de perte de colonies, moi, grâce à l'élevage, j'ai pu en avoir de plus en plus, donc ça devient vraiment dévorant. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer.
Ok. Et alors, une autre question qui me vient à l'esprit, pour moi, les miels qui vont donc nous permettre de faire le miel,
oui,
ne butinent pas toute l'année, quoi. Alors, c'est quoi un peu le quotidien d'un apiculteur sur une année, de janvier à décembre? Ça ne butine pas, donc quel est le quotidien d'un apiculteur?
Alors normalement ça ne butine pas les abeilles, sauf par exemple l'hiver dernier où il y a eu des températures très douces, donc les abeilles sont sorties et sont plus épuisées. C'était un contexte un petit peu spécial par rapport au climat.
Elles sont sorties trop tôt ?
Elles sont sorties tout l'hiver, parce qu'en fait c'est par rapport aux températures. C'est pas forcément par rapport à la saison, et par contre elles sortent, mais elles n'ont pas de fleurs à butiner. Plus il va faire froid, mieux on va être content. Et nous, donc l'hiver, on se consacre à la vente du miel, au partage avec nos clients. Et l'activité est très saisonnière, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, on est vraiment dans les starting blocks. Dès qu'il y a un créneau météo, on part avec nos enfumoirs à nos lève-cadres et on va visiter nos ruches pour voir si tout s'est bien passé, l'hivernage. Et là, plus les jours augmentent et plus on va avoir de travail, en fait. Le mois d'avril va être très intense pour nous. Nous, en tant qu'éleveurs, on va vendre nos essaims et on va mettre en place notre élevage de rennes. Et on va aussi préparer la première mielée de printemps, c'est-à-dire la récolte de miel de printemps qu'on va récolter en mai. Donc là, on a atteint un pic de travail très important. Au mois de juin, pour nous, on va transhumer un petit peu sur le châtaignier, continuer à récolter, continuer à élever. Et tout ça jusqu'au 15 août, les récoltes. Donc là, une période très très intense. Et ensuite, on va mettre en hivernage nos colonies, c'est-à-dire qu'on va les préparer à l'hiver. Donc dans notre cas, on va avoir le traitement varroa, j'en reparlerai peut-être plus tout à l'heure, et voir si toutes les ruches ont un certain poids nécessaire pour passer l'hiver, qu'elles ont toutes leurs réserves de miel.
D'accord.
Voilà.
Et d'un point de vue matériel, les ruches, c'est acheté quelque part, c'est fabriqué une maison, c'est comment ça?
Alors moi j'en ai fabriqué un petit peu au départ, mais en fait après il faut quand même pas mal de matériel et de stockage et tout ça. Donc alors, nous on travaille avec un magasin d'apiculture à côté de Beaugé, Apiculture Route d'Or, qui fabrique des ruches avec du pain local, du pain de Beaugé. Donc pour l'instant, c'est plus facile pour nous de travailler comme ça. Et il nous fait aussi notre cire à façon, etc.
Ok, merci Maxime. On va passer à une petite pause musicale. Et comme en AMAP, on fait la promotion des acteurs locaux, eh bien on va faire nous aussi la promotion des artistes locaux avec Tilacine.
Мен рәхмәт барысы ишендә, мен яшәм кейем, мен яшәм. Yeah.
C'était donc Thylacine, un extrait de son dernier album Transsibérien. Un petit rappel pour les Angevins, Thylacine est en concert au Shabada le samedi 5 novembre. Et pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde, donc dépêchez-vous. Donc nous retournons avec Maxime, notre apiculteur. Maxime, je crois que tu as établi des contrats avec la MAP de Bushmen, dont tu es issu, j'ai bien compris tout à l'heure.
Oui.
Pourquoi travailler avec une AMAP ? Y trouves-tu un intérêt particulier ?
Oui, alors la MAP pour nous, c'est arrivé en fait dans un contexte en 2014. On a commencé, on était encore salarié avec Lysiane dans une exploitation, on avait nos ruches et on s'est retrouvé avec une belle récolte de miel et on s'est posé le problème de découler le stock. Et la MAP, c'est une amie qui nous en a parlé, qui nous a dit « Ah, ce serait bien si vous étiez à la MAP ». Et tout de suite, ça nous a plu, parce qu'on est, très engagé sur un aspect local de transmission de notre produit. Donc ça nous a beaucoup intéressé. Et les gens qui adhèrent aux AMAP sont des gens sensibles qui s'engagent. Donc ça nous plaît. Et c'est un contact privilégié avec l'AMAPien, comme on dit. Donc ça nous a bien plu. En plus, les gens, comme ils s'engagent, on est sûr de découler une partie de notre marchandise. Et quoi d'autre voilà. Et puis sur Bushmen, ça nous paraissait logique, vu qu'on est à côté.
Alors sur la MAP de Bushmen, pour nous, ce qui était intéressant, c'était d'avoir un apiculteur qui nous produisait du miel produit localement. Donc le fait que Maxime pose ses ruches en Anjou, sur les bords de Loire, sur les bords de Maine, c'était très intéressant pour nous. La question qu'on se pose souvent en tant que consommateur de miel, moi je suis attiré évidemment pour avoir du miel bio. Or quand je vais dans les grandes surfaces, dans les magasins bio, je trouve souvent du miel qui vient de pays étrangers. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est assez difficile de trouver du miel bio localement?
Oui, alors dans le contexte environnemental qu'on a actuellement en France... C'est difficile de trouver des endroits qui sont des zones de butinage bio pour les abeilles. C'est-à-dire que les abeilles, les butineuses, vont à 3 km autour de leur ruche. Donc il est compliqué de trouver des zones comme ça. Et parce que la France, ça a été très remembré dans les années 70, c'est un contexte historique. Donc on a une perte de biodiversité, on a moins de haies, donc moins de ressources pour les abeilles. Pas mal de monocultures. Et moins d'espaces forestiers ou naturels. Dans les miels bio, je pense à la Hongrie, par exemple, qui est un gros producteur de miel d'acacia bio, parce qu'ils ont des grandes surfaces d'acacia. Donc ils sont un peu privilégiés là-dessus. Après, il faut se méfier aussi dans les grandes surfaces. On voit des miels bio, par exemple, qui sont... c'est marqué origine CE, hors CE. Donc en fait, après, je sais pas comment ça se passe, je suis pas un expert, mais hors CE, comment ils évaluent le bio, on sait pas. En revanche, par contre, il y a des apiculteurs bio, il y en existe peu, mais ils ont le courage de le faire en France, et ils se limitent à certaines mielées. Dans le coin, dans l'Anjou, ça va être l'acacia, le châtaignier. Ils pourront pas faire le miel de printemps, le miel toute fleur, ils vont avoir du mal à faire une gamme plus élevée de miel, en fait.
D'accord. Donc, justement, à propos de la certification bio, quels sont les éléments que le certificateur va regarder avant de pouvoir donner une mention bio à un apiculteur ?
Alors, comme je vous le disais, la zone de butinage. Je ne suis pas un expert là-dessus. Hein. Je pense qu'il faudra demander à des apiculteurs bio. Mais la zone de butinage, le certificateur évalue si c'est possible ou pas. Ensuite, il y a le traitement varroa qui doit être fait avec des molécules organiques ou sans traitement, mais à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible, même s'il y a un espoir là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le problème de la cire aussi, il est très difficile de trouver une cire bio. Au départ, quand on commence, on ne produit pas beaucoup de cire d'abeilles, donc il faut en amener de l'extérieur, et cette cire à l'heure actuelle, comme il en manque beaucoup, il y a peu de miel bio en France, il vient de l'étranger pareil, et il a des prix très élevés, le double à peu près de la cire dite conventionnelle. Et si jamais il y a besoin de nourrir les abeilles, ils peuvent utiliser du sucre, du sucre qui peut venir de l'étranger aussi. Donc pour nous, ça nous semblait pas toujours logique, même si je respecte bien ce côté bio aussi.
D'accord, donc si je comprends bien, pour un apiculteur, la grande difficulté, c'est de trouver des terres avec l'assurance de l'absence de produits phytosanitaires sur les champs avoisinants pour pouvoir poser ces ruches.
Bah, par exemple, nous, sur Bushman, Savenir, tout ce coin-là, on est assez privilégié parce que c'est une zone de bocage et il y a beaucoup d'agriculteurs bio, il y a beaucoup d'éleveurs, donc on a des prairies fleuries avec des trèfles, des choses comme ça. Mais il n'y a pas que ça, malheureusement. Il y a aussi des agriculteurs qui font d'autres types de céréales et on peut trouver des pesticides dans la nature, quoi.
Et donc, est-ce que ça pourrait paraître possible pour un apiculteur de poser ses ruches en ville, puisque de plus en plus d'agglomérations s'élancent vers le zéro produit phytosanitaire ?
Oui. Alors, ce qu'il y a de bien en ville, souvent, dont on entend parler des ruches en ville, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc, vous avez beaucoup d'arbres type tilleul, par exemple, ou sophora, même acacia, des choses comme ça, qui sont extrêmement mellifères, qui donnent beaucoup de miel, donc ça convient bien aux abeilles. Après, par contre, pour la certification bio, on a les problèmes aussi de pollution au CO2, par exemple, les voitures, les choses comme ça. Donc le problème est vraiment pas simple. Mais par exemple, nous, à Bushman, les proximités de village, c'est intéressant parce que on retrouve ces types d'arbres, tilleuls, les fruitiers que les gens plantent chez eux, et toute cette richesse-là qu'on ne trouve pas toujours à la campagne. Ce qui est dommage, à la campagne, on a moins de diversité au final que dans les bordures de ville, quoi.
D'accord, merci. Donc moi, en tant que consommateur, c'est vrai, si un apiculteur venait chez moi pour me proposer de poser une ruche, par exemple dans mon jardin, y aura-t-il des précautions à prendre ? Y aura-t-il des choses dont je devrais me soucier par rapport à mes enfants, mes petits-enfants éventuellement ?
Par rapport à
les gens ont peut-être un peu peur des abeilles. On en voit de moins en moins souvent. On est de moins en moins habitué à voir une abeille venir butiner au bord de la tomate qu'on est en train de croquer ou du verre qu'on est en train de déguster.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que c'est pas facile pour nous, les apiculteurs, de trouver des emplacements par rapport à la méfiance des gens. Alors que, contrairement à ce qu'on croit, tant qu'on va pas embêter les ruches, elles nous embêtent pas, quoi. Si vous envoyez une auprès de vos fleurs, elle va jamais vous attaquer, elle va être très concentrée sur son travail. Et donc il y a ce problème-là. Et nous, des fois, il y a des ruchers qu'on perd pour plusieurs raisons, parce que les gens n'acceptent pas forcément toujours les abeilles.
Donc si j'ai une ruche dans mon jardin, la première règle, c'est laisser les abeilles tranquilles.
Oui, bah faut les laisser tranquilles, mais faut s'en occuper. Si vous les mettez dans une ruche, ça reste des animaux domestiques. Après, il y a celles qui vivent dans les arbres et tout, parce que ça reste un animal semi-domestique, on va dire. Ceux-là, ils sont en autonomie totale, mais...
Merci.
Voilà. Merci, Maxime, de ces précisions. On va continuer avec une autre petite pause musicale d'un artiste d'un groupe en juin. Il s'agit de Babel.
La vie est un cirque. Un jour, tu débarques, tombé de l'azur et par hasard... Tu te mets debout sur tes deux pattes et on applaudit la crobate. La vie est un cirque, ramène le fric, casse des briques, lance le couteau ou tire à l'arc. Un boxon, un claque, où l'on s'attrape, où l'on se maque. Le cœur se cogne contre sa cage. L'amour est une bête sauvage. La vie est un cirque. Dans le public.
Voilà, c'était donc Babel, un petit groupe en juin, un petit, non, un vrai groupe en juin que j'ai découvert moi pendant le festival Temporif de cet été et je pense qu'on en reparlera forcément. Donc Maxime, pour cette dernière partie d'émission, j'aimerais t'entendre sur une de tes particularités, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est l'élevage d'essaim d'abeilles, je crois.
Oui, Donc on est apiculteur-éleveur, c'est-à-dire que on élève des rennes et on produit des essaims, déjà pour pallier à nos propres pertes, parce que par rapport aux problèmes environnementaux qu'on a parlé et abordé tout à l'heure, les apiculteurs perdent beaucoup de colonies, donc on a un besoin d'en recréer artificiellement d'autres. Et en plus, nous, on va satisfaire une demande justement d'apiculteurs qui perdent des colonies. Donc on va vendre une partie de nos essaims à d'autres apiculteurs. On vend également des rennes pour qu'ils puissent recréer des propres essaims. L'élevage de rennes, comment ça se passe ? En fait, on part par rapport à l'instinct naturel d'essaimage des colonies, qui correspond à la reproduction des colonies, c'est-à-dire que la... Dans une colonie, la vieille reine...
Une colonie, ça représente combien d'abeilles ?
Une colonie, quand on va être en période d'essaimage, c'est 50 000, voire plus d'abeilles. Quoi.
Ah, quand même.
Donc, quand elle est surpeuplée à ce moment-là, c'est que les conditions sont optimum, qu'il y a beaucoup de miel dans la nature. La vieille reine, avec la moitié des abeilles, va partir dans recoloniser un autre milieu, donc par exemple un tronc d'arbre. Et la colonie qui reste sur place dans la ruche, elle va être capable de réélever une reine de façon à renouveler cette colonie. Alors comment elles font ? En fait, elles ont, avant de partir, la reine pond, et il va y avoir des larves de moins de 3 jours. Et ces filles, donc les ouvrières, sont capables de réélever une reine à partir de ses œufs de moins de 3 jours. Bon, je sais pas si c'est très clair.
C'est les abeilles qui vont choisir en fait leur reine ?
Alors, elles choisissent. Enfin, chaque œuf est potentiellement une reine, en fait. C'est le hasard qui fait qu'elles vont choisir à ce moment-là ce type d'œuf. Donc, elles vont établir des cellules royales, donc des cellules qui sont un petit peu plus grosses que celles d'ouvrières. Et elles vont les nourrir exclusivement à la gelée royale pendant le développement larvaire. Voilà. Donc, nous, on essaie de recréer cette situation. Donc on a des ruches surpeuplées, avec beaucoup de miel, tout ça. On enlève la reine et nous on va mettre des larves de moins de 3 jours qu'on aura récupérées dans une colonie souche.
Et on les récupère comment, des larves de moins de 3
Alors,
jours ?
Alors on fait ce qu'on appelle un picking, c'est-à-dire qu'avec une petite plume, on va aller chercher les larves au fond de la cellule et on va les déposer dans nos cellules royales artificielles. Et ensuite on va les mettre dans notre colonie orpheline, de façon à ce qu'elle réélève une reine. Et au bout de 11 jours, on récolte ce qu'on appelle une cellule royale, donc c'est l'équivalent d'un œuf, si vous voulez, qu'on va mettre dans un essaim. Là, une reine vierge va naître, et elle va se faire féconder dans la nature, à l'extérieur, dans les 15 jours qui viennent.
Waouh, je ne pensais pas que c'était pointu à ce niveau-là.
Bah là, c'est assez bref, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais... C'est ce qui est très intéressant. Nous, ça nous a beaucoup motivés aussi, par rapport... parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, et c'est très technique. Et c'est très satisfaisant qu'on réussit. Bon, il y a des échecs aussi, mais quand ça marche, on est très content, quoi. Et après, bah là, on peut jouer grâce à l'élevage sur des critères. Par exemple, par rapport aux résistances aux maladies, on va essayer de sélectionner un peu des abeilles à l'heure actuelle qui sont plus résistantes aux maladies, parce que comme elles sont exposées aux pesticides, aux problèmes environnementaux, il nous faut absolument des abeilles en pleine santé, quoi.
D'accord. Et quels sont, après, c'est d'autres apiculteurs, les acheteurs de tes essaims d'abeilles, alors ?
Oui,
c'est...
alors par exemple, nous, on a là dans nos clients pour la saison prochaine, on a des gens qui vont s'installer, des jeunes apiculteurs. Ah. On a aussi des apiculteurs qui vont avoir des pertes. Et on a aussi des apiculteurs qui n'ont pas le temps de faire de l'élevage. Par exemple, des gens qui transhument beaucoup, c'est-à-dire qui déplacent les ruches en fonction des miels qu'ils veulent récolter. Ils déplacent, ça peut être des grandes transhumances. Hein. Donc là, ils vont faire appel à nos services pour avoir des rennes et recréer des essaims plus rapidement. Ouais, on leur envoie une renne avec des accompagnatrices par la poste. Ils reçoivent leur renne.
Par la poste ?
Oui. Wow. Là, c'est juste la renne et quelques abeilles. Et ils la remettent dans un essaim qu'ils ont fait artificiellement. Et puis, ça va beaucoup plus vite, du coup. Ils n'ont pas besoin de faire tout le processus que j'ai expliqué avant.
D'accord. Et sur ton activité d'apiculteur, ça représente quoi à peu près cet élevage des essaims par rapport au miel ?
Tu veux dire en termes de, chiffres ou...
Tant que le chiffre d'affaires que de temps passé peut-être d'ailleurs
Alors en temps passé, c'est énormément de travail, quoi. On a des gestes quotidiens, par exemple le greffage, là, le picking, c'est tous les vendredis. La récolte des rennes, c'est tous les lundis. Le mercredi, on s'occupe de nos éleveuses. Donc on aurait du travail pour plein de personnes si on pouvait, pour pouvoir en faire plus. Et donc il y a du temps, et après par rapport à notre activité, nous c'est quand même une part très importante, et c'est plus régulier que le miel dans notre cas. Parce que on sait qu'on va avoir tant de dessins de vendus dans l'année, tant de rennes. Par contre, le miel, c'est beaucoup plus aléatoire. L'année dernière était une très bonne année à miel, donc on avait des très belles récoltes. Et cette année, on en a eu beaucoup moins. Donc, si on avait eu que le miel, ça aurait été beaucoup plus difficile pour nous.
C'est facile à commercialiser, tu veux dire, les essaims d'abeilles, parce que c'est auprès d'apiculteurs principalement et que tu les connais.
Alors, il y a ça déjà, c'est vrai que c'est assez régulier, assez facile. Et puis, c'est beaucoup moins aléatoire. Il y a une quantité qui est sûre d'être vendue. Le miel, par exemple, ça peut aller du simple au triple. Hein. Cette année, on a fait trois fois moins de miel que l'année dernière, à peu près.
Et donc, quels sont les éléments qui font que tu as une quantité de miel plus ou moins importante suivant la saison ?
Alors, cette année, par exemple, était une très mauvaise année à miel, principalement due aux conditions climatiques. On a eu un printemps vraiment très pluvieux. Donc, les abeilles n'ont pas pu sortir et elles n'ont pas pu profiter des différentes floraisons de printemps, qui est la période la plus importante normalement. Et voilà, après c'est le suivi des colonies aussi qui va faire la différence, mais là on est tributaire du climat comme dans tous les métiers agricoles, je veux dire. Cette année c'était une mauvaise année à blé, une mauvaise année à foin et une mauvaise année à miel.
D'accord.
Donc l'élevage, ça nous permet de résister plus facilement aux aléas climatiques, aux problèmes environnementaux et tout ça.
Et l'élevage, donc la production d'essaims, est-ce que c'est une activité récente ou est-ce que les apiculteurs ont toujours fait de tout temps, ils ont produit leurs essaims ?
Alors ça existe depuis assez longtemps, principalement des apiculteurs qui voulaient être très performants, qui veulent avoir des ruches, par exemple renouveler des rennes, avoir des rennes tout le temps au top. Et par contre avant, quand il y avait beaucoup de miel en France, les apiculteurs ne se souciaient pas de ce problème-là, ils récupéraient des essaims dans la nature, ils faisaient pas mal de miel et ça leur suffisait. Et à l'heure actuelle, par rapport au nombre de pertes de colonies, c'est très difficile de s'en sortir sans faire d'élevage. Nous, on le fait intensivement, on en fait beaucoup toute la saison, mais il y a des apiculteurs qui ont besoin d'en faire un minimum pour pouvoir renouveler leur cheptel.
Voilà. Ok, bien merci Maxime de toutes ces précisions, parce que personnellement, j'en ai déjà beaucoup appris. J'espère que vous, auditeurs, en avez fait de même. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Et oui, ça passe déjà vite, 13h27. Un petit rappel, il y a une page Facebook, Assiette pour 3, donc vous retrouverez en podcast toutes ces émissions sur cette page Facebook et toutes les actualités diverses. Il y a certainement une AMAP autour de chez vous, si ce n'est pas le cas ou si vous ne le savez pas, il y a un site internet, amap49.org, n'hésitez surtout pas. Et puis s'il n'y en a pas autour de chez vous, vous pouvez peut-être avoir l'envie d'en créer une AMAP. Et bien dans ce cas-là, vous nous laissez un petit mot sur cette page Facebook, sur ce site internet et on saura vous renseigner. Alors, prochaine émission, eh bien, ça sera dans 15 jours, donc toujours de 13h à 17h. Au sujet de cette émission, un grand thème, ma révolution. Et oui, là, on aura un agriculteur qui vous parlera de son passage de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Donc voilà, un grand merci à mes invités que sont Maxime et Alain. J'espère que vous, amis auditeurs, avez su en profiter, que ça vous invitera à rejoindre les AMAP, à découvrir un petit peu plus ce qu'est le miel et ce métier de l'apiculteur. Et puis je vous dis donc à très bientôt.